Monseigneur Maroy, archevêque de Bukavu, République démocratique du Congo. Quelque part, Monseigneur, il suffirait de prononcer République démocratique du Congo et puis le thème du synode pour se dire qu'il y a là des éléments en parfaite cohésion. Le Congo est un pays, j'allais dire, martyrisé.
Et effectivement, nous avons été très contents de voir le thème qui a été proposé pour le synode. Maintenant, étant donné ce que vit effectivement notre pays, la République démocratique du Congo. Il y a des atrocités, il y a des tensions, il y a des frustrations, il y a des traumatismes dans tous les sens qui demandent que l'Église d'Afrique en général et l'Église du Congo en particulier, en collaboration avec l'Église universelle, se pose la question sur la mission de l'Église aujourd'hui comme celle de la terre et lumière du monde dans le cadre de créer la justice, la paix entre les humains et surtout la réconciliation interne et externe de l'humanité.
Justice, réconciliation, Monseigneur, sont des processus aboutis, mais qui supposent un préalable, la paix. Est-ce que la République démocratique du Congo, et surtout plus particulièrement donc l'Est de ce pays, vous donne l'impression que malgré tout, on s'achemine vers la paix?
Moi, je suis optimiste de nature. Je ne me décourage jamais malgré les épreuves, malgré les difficultés. Et je regarde beaucoup plus les points positifs, si petits soient-ils, qui sont marqués dans la vie d'une personne et dans l'histoire de l'humanité. Quand on regarde la situation actuelle du Congo, notre pays, partant du temps de Première République, Deuxième République et autres, et avec l'évolution du temps, je peux considérer que oui, il y a évolution positive, même si c'est encore très invisible à cause de la souffrance que nous avons connue pendant plus d'une décennie de persécution où on déplore la mort de plus de 5 millions, si pas 6 millions maintenant, de Congolais qui ont été tués en une dizaine d'années.
Dont un archevêque d'ailleurs.
Non, pas un. Moi, je suis successeur de 3 archevêques morts en l'espace de 9 ans. Le premier a été assassiné en 96, le deuxième est mort d'épuisement d'un exil qu'il a subi en 2000, et le troisième est mort d'un traumatisme qu'il a eu à cause de la situation dans laquelle il a été intronisé en 2005. Et moi, j'ai été intronisé en 2006, donc tous les trois. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que nous considérons le mois d'octobre, mois au cours duquel tous les trois sont successivement morts, comme un mois de souvenir, un mois de prière intense, mais comme un mois de mission. Moi, Marielle, nous avons confiance que l'Évangile fera son chemin grâce à l'intercession de nos trois prédécesseurs et aussi la Vierge Marie qui aime l'Afrique ne manquera pas d'intercéder pour nous afin que son Fils nous apporte la véritable paix, parce qu'il est le prince de la paix.
Mais dans une situation aussi difficile, est-ce que prôner la réconciliation, prôner la justice et donc aboutir à la paix sont des tâches que l'Église se sent à même de réaliser?
Pour regarder concrètement chez nous, je ne peux pas dire non. Nous avions déjà parlé de ces problèmes. Le Congolais, il a le pardon à la paume de main. Il est spontané à ne chercher que le bien. Si l'oppresseur aujourd'hui reconnaissait son tort et il demande pardon à n'importe qui du peuple congolais, il l'obtient immédiatement.
Et l'oppresseur c'est qui aujourd'hui?
L'oppresseur c'est quiconque fait le mal contre la nation congolaise. Ça peut être n'importe qui. Il peut se trouver n'importe où. Mais c'est celui qui reconnaît son tort. Ça peut être même un propre Congolais, même un enfant dans sa propre famille qui fait des nuisances à ses frères et sœurs. Dès qu'il reconnaît qu'il a tort et qu'il demande pardon, le Congolais, immédiatement, il pardonne. Et nous travaillons sur ce chemin-là. Nous essayons de persuader tous ceux qui commettent des maladresses, tous ceux qui commettent les atrocités, que cette façon-là ne peut pas les rendre heureux. Il faut qu'on choisisse le chemin du bonheur, et le chemin du bonheur, c'est le chemin de la cohabitation dans la paix, qu'on appelle communément cohabitation pacifique. C'est cela qui garantit le développement. Et nous pensons même à l'avenir. Quand vous faites des choses de ce genre, quel avenir vous réservez à votre postérité, à votre descendance, à votre famille? Il faut penser et voir plus loin, parce que l'expérience a déjà montré que tous ceux qui ont fait le mal de leur vivant, après eux, leur famille l'ont payé très cher. Et nous essayons d'y agir en tant qu'Église, à la base de notre conviction chrétienne, à la base de notre évangile, et nous croyons que ça peut durer, mais l'évangile finira par triompher, parce que le mensonge, même 1000 ans de chemin, est vaincu par la vérité après très peu de temps.
On va terminer, Monseigneur, par prendre les nouvelles donc des deux ecclésiastiques enlevés, un grand séminariste et un religieux dans votre territoire. Est-ce qu'ils se portent bien? Vous avez de leurs nouvelles?
Plus fort que ça, ils ont été enlevés le vendredi 2 octobre passé.
Donc, toujours octobre, mois d'épreuve à Bukavu.
Le mois des épreuves à Bukavu, qui est appelé mois de souvenirs. On a dû payer une rançon pour pouvoir les récupérer. Et le dimanche matin, ils étaient entre nos mains, parce qu'on les a libérés à 4h du matin du samedi. Mais comme je l'ai dit plus fort encore, la nuit du 5 au 6, avant-hier, une communauté de frères maristes qui travaillent dans l'enseignement a été attaquée. On a dépouillé les frères de tout ce qu'ils avaient comme bien, bien précieux. Et nous n'avons pas pu sauver la situation. Donc aujourd'hui, nous avons une paroisse à 40 km au sud-ouest du centre-ville et une école au sud du centre-ville qui ont été molestées et traumatisées par ces bandits qui font la loi dans notre partie de l'est du pays.